Donc il y aura ce coup d'État du 2 décembre 1851 qui fait que Louis-Napoléon, prince président, prend le pouvoir et un an plus tard rétablira l'Empire. Donc c'est un coup d'État, mais c'est assez dur, hein, avec des déportations de tous les opposants, des centaines d'arrestations, des emprisonnements, des déportations en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Alors là, Georges se démène pour sauver les proscrits. Et alors, elle aura deux audiences avec Napoléon III. Il va la recevoir. Elle lui avait écrit une lettre lorsqu'il était prisonnier à Ham. Je pourrais vous en donner lecture, où elle salue, parce qu'il était, c'était un socialiste, hein, c'était un, il avait le souci des pauvres, il avait écrit un traité pour l'extinction du paupérisme, etc. Et donc peut-être s'en est-il souvenu, donc il va la recevoir deux fois, et elle va donc lui demander, non pas des grâces, mais l'amnistie. Un axemot là à la bouche, amnistie, voilà, général. Il refuse et il l'envoie à son ministre de l'Intérieur, Persigny, il l'envoie pour obtenir des grâces. Alors elle va, ça sera des grâces au cas par cas, donc elle va sauver beaucoup de gens, mais elle sera critiquée par ses amis socialistes parce que elle pactise avec l'adversaire, voilà. Elle cause avec l'adversaire, c'est considéré un peu comme une traîtrise, voilà. Et donc, c'est toujours un peu la déception, mais c'est son cœur qui parle. Toutefois, elle recevra une lettre. J'ai vu des prisonniers de Châteauroux, des gens emprisonnés, qui la remercieront, une lettre collective, pour la remercier de son action. Voilà. Et puis, elle aura des liens d'amitié ensuite, sous le Second Empire, avec Napoléon III, et puis l'impératrice. Et d'ailleurs, son fils, Maurice, par exemple, fera, je ne crois pas me tromper, un voyage en Amérique avec Jérôme, en fait, hein, l'oncle, l'ex-roi Jérôme, enfin, le frère de Napoléon, le dernier frère survivant, et donc l'oncle de Napoléon III. Sur le yacht de Jérôme, Maurice fera un voyage en Amérique, il y a des liens, et il demandera souvent des secours, d'ailleurs, pour ses... Elle n'est pas très argentée, elle aide les pauvres, elle donne beaucoup, mais... on l'a dit, il a des dettes aussi, et elle écrit pour régler les dettes. Et donc souvent elle demande, un pauvre pêcheur a perdu sa barque dans une tempête, elle écrit à Napoléon III ou à Eugénie, elle demande 1000 francs, c'est une grosse somme pour l'époque, et la somme arrive, le mandat arrive par retour du courrier, quoi. Voilà. Donc c'est cette générosité, hein, voilà. Et alors, en tant que féministe, on l'a vu, elle défend les droits des femmes, elle affirme elle-même sa liberté, mais elle n'est pas suffragette, voilà. Elle estime que les femmes, le temps n'est pas mûr. Vers 1848-50, le milieu du 19e, la société n'est pas mûre pour que les femmes votent, soient électrices et éligibles. Voilà. Et donc, mais elle veut qu'elles aient leurs droits civils. D'abord, c'est la première étape dans la famille, dans le mariage, qu'elles aient la liberté, qu'elles soient légales des hommes. Voilà. Et qu'ensuite elles puissent s'engager en politique. Donc c'est pas une suffragette, bien que féministe. Voilà. Donc on a vu cet épisode donc du coup d'État de 1851, ses relations avec le Second Empire. Et puis il y aura ensuite la fin du Second Empire, 1870. Alors, à noter que ces deux entrevues avec le Napoléon III, celui qui allait le devenir l'année suivante, sont notées, bien sûr, dans la France napoléonienne, dans le journal de Napoléon Bonaparte, où on relate l'entretien avec Georges Sand, bien sûr, ce qui fait que ça la met en défaut, en porte-à-faux avec ses compagnons d'armes, si on peut dire, ses compagnons socialistes, voilà. On lui rend des hommages, mais un peu pervers, voilà. On utilise sa notoriété, mais elle, c'est le cœur qui parle, donc voilà. Elle va pas. Il y a la doctrine, il y a la dialectique, mais c'est le cœur, son cœur de femme, de mère, enfin, etc. Donc, par la suite, vers la fin du Second Empire, il y aura une certaine brouille, mais là c'est au niveau des mondanités, au début 1870, mais à la veille de la catastrophe, qui va avoir la chute, et la défaite à Sedan, et puis du 2 septembre 1870, et ensuite le renversement du Second Empire le 4 septembre, la progression de la République. À la veille, donc au début 1870, il y aura une brouille, parce qu'elle écrit un roman qui sera adapté au théâtre malgré tout, entre guillemets, où l'impératrice se voit dépeinte, et ça peut... dans un personnage, mademoiselle de d'Ortosa, qui est une aventurière, une ambitieuse, et donc Eugénie s'y voit portraituré, une façon un peu caricaturale, voilà, portrait charge, et c'est Flaubert qui va s'entremettre, mais bientôt tout ça, ça sera des... une péripétie, on va dire du mondaine un peu littéraire, qui sera emportée par la catastrophe de la défaite de septembre 1870. Son dernier roman, ce sera Charles Marchal, qu'elle appelle alors mon lapin, enfin de toutes les couleurs. Ça sera le dernier roman, un roman solide, mon gros Marchal, elle l'appelle mon gros Charles, voilà. Et donc ensuite, fin du Second Empire, Commune de Paris. Alors là, on sait ça sera la défaite. Le 2 septembre 1870, Sedan, on en avait parlé. Le 4 septembre, proclamation de la République. Alors là, il est enthousiaste de retrouver cette République, cette bonne vieille République. Elle espère qu'elle va perdurer. Mais c'est là, ensuite la Commune de Paris. Alors les Français se déchirent sous les yeux de l'occupant. La Commune de Paris, les communards refusent, Paris se révolte, refuse la défaite, refuse la signature de la capitulation. Donc, à noter qu'avant cela, ces petites anecdotes, pendant le siège de Paris en septembre 1870, avant la Commune, entouré par les Prussiens, donc la ville résiste encore, et on envoie des ballons des montgolfières à l'extérieur pour faire le lien avec l'extérieur, la province, et ces ballons s'appellent le Gambetta, le Barbès, et puis il y a le Georges Sand, voilà. Donc ça donne une idée, c'est vraiment une célébrité de l'époque, un monument de l'époque. Commune de Paris, proclamée le 28 mars 1871, et alors là, elle n'approuve pas, parce que ça sera un déchaînement de violence, et les communards parisiens vont quand même tout incendier, tous les monuments de Paris, et puis ils vont massacrer des otages, dont l'archevêque de Paris et Monseigneur Darbois, avec d'autres prêtres, donc ça sera des exécutions, et là, elle n'approuve pas. Elle soutient Monsieur Thiers, là, qui va... à la tête du gouvernement versaillais, le gouvernement s'est réfugié à Versailles, massacrer, investir Paris et massacrer ces révolutionnaires voilà, c'est massacrer achevé dans le sens cette Commune de Paris, voilà. Donc elle est pour une république, mais une république modérée, voilà. Donc c'est un retour un petit peu. C'est l'âge aussi qui fait que, bon, peut-être, elle est désillusion. Voilà. Donc, elle va mourir le 8 juin 1876. Elle est entourée, alors, elle est à Nohant, apaisée avec son fils Maurice. Sa fille Solange vient de temps à autre. Et sa fille Solange est devenue une courtisane aussi. Voilà. Elle a divorcé, elle avait épousé Klesinger, un sculpteur, très endetté, puis il y a eu des situations conflictuelles. Elle finit par, il faut dire, vivre de ses charmes, un peu comme sa grand-mère, voilà, qu'on appelait les dames de l'opéra, sa grand-mère et sa tante côté maternelle, voilà. Et donc, Maurice, lui, il écrira un peu, il avait des dons d'écriture, mais comme c'était un enfant gâté, il n'a jamais eu la volonté, il a écrit un roman à quatre mains, mais c'était plus sa mère qui l'avait écrit, enfin, etc. Elle, jusqu'au bout, elle travaille, elle se définit comme un vieux nègre, elle travaille et puis elle vend ses pages, sa copie, voilà. Et notamment par exemple dans Le Temps, la Bulose, donc elle continue de vendre ses articles, ses romans, enfin, inépuisablement. Et puis elle meurt le 8 juin 1876, enfin à 9h30, donc dans sa... dans son Nohain natal. Elle sera enterrée religieusement le 10 juin au cimetière de Nohain, religieusement contre son gré. C'est ses enfants, sa fille notamment, qui impose des obsèques religieuses. Alors il y aura Flaubert, il y aura Ernest Renan aux obsèques, Alexandre Dumas fils aussi faisait partie de ses amis. Voilà. Je vais vous donner quelques citations pour illustrer un peu le personnage de ce qu'elle était, notamment peut-être les échanges avec Flaubert. Voilà. Pour illustrer un petit peu cette incandescence, on va dire. Bon, nous nous retrouvons pour cette conclusion, je veux dire, avec quelques textes après le dernier intermède musical.